À tous, est-ce que vous m'entendez bien? C'est impeccable alors. J'aimerais vous dire bonjour à tous. Je suis arrivé un petit peu juste ce matin, donc je n'ai pas su vous saluer. Voilà, c'est la première fois pour moi que je vais apporter donc un message. Ça ne se voit peut-être pas, mais je ne suis pas rassuré du tout. C'est pas comme parler d'une recette de cuisine. On parle du Dieu trois fois saint, on parle d'un amour et d'une grandeur, d'une sagesse qui nous dépasse. Alors, donc voilà, je vous demande votre indulgence et aussi je vais vous apporter donc, un partage en toute humilité et je pense en toute simplicité avec vous ce matin. Alors, avant d'aller plus loin, je souhaiterais avoir une prière avec vous afin que l'on puisse se préparer, vous comme moi-même. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin, nous te prions, Seigneur. Je te demande, Seigneur, ton aide, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, m'utiliser. Seigneur, comme un outil. Seigneur, que tu vas utiliser, Seigneur, pour que ta parole, Seigneur, puisse passer. Seigneur, je te remercie pour ce que tu m'as confié, Seigneur, et je te demande ton aide, Seigneur, en ce moment, pour que je puisse le rendre, Seigneur, à mes frères et sœurs qui sont là ce matin. Seigneur, aide-nous ce matin à avoir un cœur qui soit ouvert, Seigneur, enclin à écouter ta parole. Seigneur, un cœur qui puisse recevoir, Seigneur, ton message, ton amour, Seigneur, tes voix. Et que l'on puisse, Seigneur, ta parole la mettre en pratique dans nos vies, Seigneur, respectives, afin que l'on puisse porter du fruit, Seigneur, pour ta gloire, mais aussi pour cette assemblée, ici où on se trouve, Seigneur, à Jumet. Alors je te remercie parce que je sais que tu vas conduire, Seigneur, toutes choses, et que tu es avec chacun de nous. Et nous, je te rends grâce et je te bénis. Amen. Amen. Alors j'aimerais vous inviter pour commencer, eh bien, ce message à faire trois lectures. Nous ferons deux lectures dans le Nouveau Testament, et une lecture dans l'Ancien Testament, et je voudrais vous inviter à la première lecture dans l'Évangile de Jean, à partir au verset premier, au chapitre premier, pardon, donc Jean, chapitre 1, et nous lirons des versets 19 à 28. Jean, chapitre 1, versets 19 à 28. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: « Toi, qui es-tu ? » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent: « Quoi donc ? Es-tu Élie ? » Il dit: « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète ? » Il répondit non. Verset 22, ils lui dirent alors: « Qui es-tu ? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Au verset 25, ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de lier la courroie de ses souliers. Verset 28. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Une deuxième lecture, dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu au chapitre 11, et nous lirons le verset 11. Évangile de Matthieu, chapitre 11, et le verset 11. Ce verset 11 nous dit ceci, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Et la dernière lecture que nous ferons en ce moment dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40, et nous lirons le verset 3 et 4, si vous voulez bien. Ésaïe, chapitre 40, verset 3 et 4. Et le prophète dira ceci, « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. » Voilà pour les trois lectures de ce matin. Et avant même d'aller plus loin, eh bien, j'aimerais d'abord vous dire quelques mots Eh bien, par rapport à Jean le Baptiste. Parce qu'après tout, Jean le Baptiste, certains le connaissent, d'autres un peu moins, certains peut-être pas du tout. Donc c'est une découverte ou à la fois une redécouverte de Jean le Baptiste. Alors le ministère de Jean le Baptiste a été annoncé 7 siècles avant qu'il ne débute, par le prophète Ésaïe. Alors Jean a des parents, bien sûr, son papa est Zacharie et sa maman est Élisabeth. Les parents de Zacharie étaient des gens pieux, nous dit la parole de Dieu, étaient des gens qui, d'une manière irréprochable, eh bien, respectaient et pratiquaient les lois et les ordonnances de la loi, justement. Irréprochables, des gens justes, des gens droits, qui ont certainement élevé leur fils dans cette manière-là. Et alors, première parenthèse que j'aimerais ouvrir ce matin, c'est pendant justement le service de Zacharie, le papa de Jean le Baptiste était occupé à servir dans le temple, lorsqu'il reçut la visite d'un ange. Et cet ange, eh bien, va lui annoncer que sa prière va être exaucée. Sa femme sera enceinte et ils auront un fils qui sera grand devant l'Éternel, qu'il sera un sujet de réjouissance et d'allégresse pour tous. Et la parenthèse que je veux ouvrir, c'est que combien de fois nous prions peut-être le Seigneur depuis des jours, des semaines, peut-être des mois, peut-être aussi des années, pour une prière qui ne s'accomplit pas, ou peut-être pas comme nous l'aurions voulu. Mais c'est durant le service que Zacharie reçut la réponse à sa prière. Or, ce n'est pas vous dire ce matin de servir, servir, servir pour obtenir quelque chose de Dieu. Ce n'est pas ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire, eh bien, c'est que persévérons. Encourageons-nous les uns les autres à persévérer dans le service. Continuons, même si c'est difficile. Servons le Seigneur. Notre rôle à nous, c'est de servir le Dieu de gloire. Jean est pour ses parents un sujet de joie et d'allégresse. Mais pas seulement, je l'ai dit. Pour une multitude de personnes aussi. Il sera grand devant le Seigneur. Il est grand devant le Seigneur. La Bible nous dit aussi qu'il sera rempli de l'Esprit Saint et ça dès le ventre de sa maman. Chose extraordinaire. Il marchera devant Dieu avec quoi ? Avec l'Esprit et avec la puissance du prophète Élie. Jean le Baptiste, il faut le savoir aussi, est le cousin de Jésus. Il est 6 mois plus âgé que Jésus, en tout cas pour le côté pleinement homme de Jésus. Jean le Baptiste est né 6 mois avant Jésus. Nous pourrions aussi, après avoir parlé un petit peu de Jean le Baptiste, sur d'où il vient, qui sont ses parents, sur son style de vie, sur sa manière de vivre. Alors, Jean le Baptiste, il faut le savoir, a mené une vie qui a certainement dû choquer ses contemporains, peut-être par rapport à sa manière de s'habiller, peut-être par rapport à sa manière de manger, à sa manière de parler, sa manière d'interpeller les gens, par une voix qui devait certainement porter et une voix qui devait parfois dire les choses sans avoir de détour. Et aussi par le message qu'il apportait, un message de repentance. Ça, c'est nouveau aussi. Jean le Baptiste ne boit pas de liqueur forte, ne boit pas de vin, donc il ne boit pas d'alcool. C'est son choix personnel. Il mange des sauterelles et du miel sauvage qu'il trouve. Il s'habille de vêtements en peau de chameau, pas très confortable, et il aura une ceinture de cuir autour des reins. Voilà ce qu'il portera comme vêtement. Il demeure dans les déserts, à l'écart du peuple, jusqu'au jour où il va se montrer, où il va avancer vers ce peuple-là pour justement commencer son ministère, pour annoncer la repentance et baptiser d'eau ceux qui acceptent eh bien, de demander pardon à Dieu pour les mauvais comportements, pour les mauvaises choses de la vie. Et alors on peut constater aussi que le style de vie, le style vestimentaire pardon, de Jean le Baptiste ressemble de très près à celui du prophète Élie également. On voit qu'il y a des choses qui se rapprochent très fort. Alors, le premier point que j'aimerais aborder avec vous ce matin, c'est justement cette question. Que peut nous enseigner à nous, chrétiens, en 2022, dans le monde dans lequel on connaît, avec le style vestimentaire que l'on connaît, avec le style d'alimentation que l'on connaît actuellement, que peut-on tirer comme enseignement, justement, du style de vie, qu'il soit vestimentaire ou de nourriture ou des choix de vie que Jean le Baptiste eh bien, a pu faire. Et je pense qu'on pourrait dire ça pour commencer. Le vêtement de Jean n'avait rien de confortable, mais n'avait rien non plus pour attirer l'œil. Ça n'avait rien de beau. Vous savez, les vêtements en poil de chameau, j'ai pris quelques renseignements là-dessus, c'était répandu à l'époque, qu'on puisse s'habiller en vêtements de poil de chameau, mais ce n'était pas un vêtement en poil de chameau qui avait été fait de manière luxueuse, de manière noble. C'est reconnu pour être un vêtement dur, un vêtement pas confortable, irritant, quelque chose qui n'est pas confortable et beau à porter. Le régime alimentaire de Jean le Baptiste était celui d'un homme qui ne mangeait que ce qu'il trouvait. Ils ne se préparaient pas de repas somptueux, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté des sauterelles, peut-être certains, ou alors du miel sauvage, mien pour d'autres. C'est certainement moins bon qu'une entrecôte béarnaise avec des frites, hein, pour ceux qui apprécient manger. Eh bien, Jean-Baptiste, c'est un choix. Il décide de manger ce qu'il trouve, ce que le Seigneur, comme ça, lui donne, parce qu'il est tellement occupé des choses spirituelles, tellement occupé à servir, eh bien, son Dieu, que ce côté alimentaire, que ce côté vestimentaire lui passe au-dessus. Ça n'est pas ça qu'il veut, c'est servir son Dieu, et il ne perd pas de temps avec ces choses-là. Et comme je l'ai dit, rencontrer Jean-Baptiste devait être un moment important dans la vie. Une expérience inoubliable, peut-être choquante pour d'autres. Tellement sa vie était mise à part pour le Seigneur, il devait peut-être constituer un choc. Certaines personnes auront dû certainement ne pas l'aimer, ne pas l'apprécier. Ah, tellement il se prend pour qui celui-là ? S'habiller comme ça, il mange pas comme les autres, il boit pas comme les autres, il se prend pour qui de se mettre comme ça à part ? Certains auront dû apprécier, mais beaucoup, je pense, auront dû être choqués par ce côté-là. La vie de Jean est avant tout spirituelle, avant d'être physique. Première question que j'aimerais que l'on se pose ce matin, suis-je moi-même, dans ma vie de chrétien, trop absorbé par les choses du monde, par mon habillement, par la mode, par mes chaussures, par mes vêtements, par ma coiffure peut-être, homme comme femme, peut-être aussi trop occupé à savoir ce que je vais manger ce soir, demain, à midi ou après-demain, trop occupé par ces choses du monde, que ces choses-là ont peut-être pris une place trop importante dans ma vie et peut-être que je devrais apprendre à les laisser au second plan et peut-être davantage me consacrer aux choses de Dieu, aux choses spirituelles. Suis-je plus intéressé par le manger, le boire et l'habillement que par le fait de devoir servir mon maître, servir mon Dieu ? Jean vit dans le monde, il ne vit pas en dehors du monde, mais il vit un peu à l'écart du monde, mais il ne pratique pas les choses du monde. Il reste à l'écart du péché ambiant dans lequel son peuple est à l'époque. Qu'en est-il pour moi personnellement par rapport à mon contact avec la mondanité ? Est-ce que peut-être je suis trop enfoncé dedans ? Est-ce que peut-être je prends trop ça au sérieux ? Est-ce que ces choses-là ont pris la place de Dieu dans ma vie ? Peut-être ce matin nous pourrions y réfléchir et peut-être remédier à ça, dans les semaines qui vont suivre. La parole de Dieu nous dit que des sacrificateurs et des lévites vont être envoyés de la part des chefs religieux pour venir interpeller Jean-Baptiste. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse également. Pourquoi, à votre avis, on envoie des pharisiens, des lévites, hein, des sacrificateurs pour interroger Jean-Baptiste ? Mais je pense que c'est parce que sa vie, eh bien, elle est choquante. Il mène une vie différente des autres, une vie qui interpelle, une vie qui n'est pas normale, qui n'est pas plate comme celle que les autres vivent, une vie à part. Et ici, on envoie des gens haut placés pour voir ce que Jean a raconté, ce que Jean fait. Eh bien, on pourra aussi se retourner la question pour nous aussi. Est-ce que, en tant que chrétien actuellement, ma vie peut-être choque certains ? Est-ce que ma vie interpelle, dans le bon sens du terme ? Est-ce que mes contemporains, ma famille, mes collègues, mes amis, les gens que je côtoie, eh bien, sont interpellés par mon style de vie, par ma différence que je marque dans mes relations humaines, peut-être par ma politesse, peut-être par ma joie de vivre, par mon sourire que je communique malgré les choses difficiles que je traverse dans ma vie. Et je pense que c'est une bonne chose que de pouvoir avoir une vie qui interpelle, une vie qui interpelle pour que les gens viennent vers nous et que nous puissions à notre tour leur parler de l'Évangile. Voilà, la joie que tu vois sur mon visage, c'est la joie de Dieu. C'est ce que Dieu m'a donné. Si j'accepte pas de rigoler à certaines blagues déplacées, c'est parce que je trouve pas ça normal. C'est parce que Dieu veut de moi. Si je ne suis jamais ivre dans les fêtes, là où je travaille ou dans des repas de famille, bien c'est peut-être parce que je n'ai pas envie d'être comme ça. Parce que c'est pas ce que mon Dieu me demande. Voilà. Est-ce que notre vie à nous, en tant que chrétiens en 2022, interpelle à tel point que des personnes peuvent venir vers nous et se demander un peu, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment se fait-il que tu n'es pas comme les autres ? C'est un bon témoignage aussi. C'est un bon témoignage. Alors les sacrificateurs, eh bien, qui sont ces gens ? Ce sont des personnes qui avaient un rôle important dans le temple et qui s'occupaient des offices très importants dans le temple, plutôt un côté spirituel. Les lévites, quant à eux, s'occupaient de réaliser plutôt des tâches plus pratiques dans la vie du temple. Donc sacrificateurs et lévites sont des gens importants des gens haut placés, des gens qui veulent savoir ce que Jean le Baptiste a raconté. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire, ces Lévites et les sacrificateurs? Et bien, ils viennent poser d'abord une question. Ils veulent poser une seule question à Jean le Baptiste. Et de cette question va en découler toute une série d'autres, parce qu'ils seront dans l'incompréhension. Qui es-tu? Toi, qui es-tu? Es-tu le Christ? Et Jean le Baptiste aura une réponse très, très courte, très brève. Il dira non, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Alors, ça va interpeller ces personnes et ils vont lui poser une autre question. Alors, tu es Élie? Tu es le prophète Élie? Il dira non, je ne le suis pas. Toujours pas content de la réponse, satisfait de la réponse que Jean le Baptiste donnera. Ils vont lui poser encore une question. Es-tu le prophète? Tu es le prophète annoncé alors? Encore une fois, à Jean de répondre non, je ne suis pas le prophète. On peut constater que les réponses de Jean le Baptiste sont courtes, sont brèves et sont justes. Il ne va jamais détailler beaucoup de choses. Il dira simplement non. Il dira ce qu'il n'est pas. Il ne dira jamais ce qu'il est. Et c'est ce qui mène à mon deuxième point. Que peut nous enseigner encore une fois à nous chrétiens, à l'heure actuelle, les réponses simples, courtes et brèves de Jean le Baptiste? Qu'est-ce que ça peut m'apprendre? En quoi est-ce que ça peut travailler mon cœur aujourd'hui, ce matin? Mais peut-être que d'autres personnes que Jean le Baptiste auraient profité de ces moments-là, que des personnes haut placées viennent s'interroger sur moi et se faire mousser peut-être. Ah non, je ne suis pas le Christ, mais je suis quelqu'un d'important, hein. Je suis haut placé, j'ai été mis à part par le Seigneur, j'ai un message très important, je suis le fils de papa un tel, de maman un tel, j'ai une position importante, je ne suis pas le Christ, mais quand même, j'en suis néanmoins quelqu'un d'important. Mais ce n'est pas du tout ce que Jean le Baptiste fait. Des réponses simples, des réponses courtes, je ne le suis pas, je ne le suis pas, je ne le suis pas. Il ne dira jamais ce qu'il est. Et pourtant, on l'a lu ce matin, ô combien Jean le Baptiste est quelqu'un de grand devant Dieu, est quelqu'un de grand. À tel point que Jésus dira de lui qu'il n'y a pas eu d'homme plus grand que lui sur terre. Alors qu'en est-il de moi-même également ce matin? Est-ce que je suis capable de rester humble comme Jean le Baptiste l'a été? Humble face aux personnes qui viennent peut-être m'interroger, me parler? Ou est-ce que je veux revendiquer peut-être une place qui n'est pas la mienne? Parce que la première place ne doit pas nous revenir, mais de revenir à Dieu, à Jésus, tout simplement. Suis-je un témoin fidèle, comme Jean le Baptiste l'est, comme Jean le Baptiste l'a été? Est-ce que je suis capable de voir ma place dans le service? Est-ce que je laisse la première place à Dieu dans mon service pour le Seigneur? Alors vous imaginez bien que les sacrificateurs et les Lévites, eh bien, ils se demandent un peu où ils sont tombés, parce qu'ils n'ont toujours pas de réponse à apporter aux chefs religieux. Pour eux, c'est pas concevable de retourner d'où ils viennent sans une réponse claire, nette, précise, sans une réponse carrée pour dire voilà, on a été envoyé pour accomplir une mission, on sait maintenant ce qu'il en est. Ils savent pas, ils sont dans l'inconnu. Et c'est pas possible pour eux de retourner de là où ils viennent comme ça. Alors ils vont encore poser question à Jean le Baptiste. Mais qui es-tu en définitive? Que dis-tu de toi? Si personne ne sait nous expliquer, si personne n'éclaire notre lanterne, qui es-tu? Que dis-tu de toi? Que dis-tu de toi-même? Et cette question, que dis-tu de toi-même, elle peut nous être posée par le Seigneur aussi ce matin. Que dis-tu de toi-même? Lorsque des personnes qui ne connaissent pas l'Évangile, personnes qui n'ont pas d'idée de ce que nous faisons dans une assemblée chrétienne, savent peut-être que certains chantent, que certains prient, qu'il y a des dirigeants, il y a des pasteurs, il y a des anciens, il y a des diacres, mais tout ça c'est flou. Mais nous sommes appelés à être interrogés parfois sur ce que nous faisons dans l'Assemblée, ce que nous sommes. Et quelle sera notre réponse? Est-ce que nous donnerons une réponse humble, remplie d'humilité par rapport à ces gens? Ou est-ce qu'on va se faire mousser? Moi, je suis ancien à l'Église. Moi, je suis pasteur. Moi, je suis diacre quand même. Moi, je joue de la musique. Alors, moi, je fais des présidences, hein, beaucoup de dimanches. Et les gens aiment bien en général, hein. Moi, je lave l'église. Il n'y a que moi qui le fais bien, en tout cas. Moi, je fais des choses comme ça. Mais c'est facile de parler comme ça. C'est facile de parler comme ça. Et si on y réfléchit à plus près, en général, la première pensée qui nous vient à l'esprit, elle est rarement la bonne. L'être humain, il se croit toujours très, très important. L'être humain est quelqu'un d'important. On aime être important, alors qu'on n'est pas grand-chose au bout du compte. Mais on aime être considéré comme des gens importants. On aime ça. Est-ce que je recherche l'attrait, la gloire des hommes? Est-ce que j'aime bien être dans la gloire des hommes? Est-ce que c'est ce que je recherche? Mais ce n'est pas ce que Jean le Baptiste recherchait. Il voulait rester humble, simple, rempli d'humilité, parce que la première place, ce n'était pas pour lui, et il le savait très bien, c'était pour Dieu. Et il ne voulait que s'effacer. Et plus il s'effaçait, plus le Seigneur Jésus pouvait prendre de la place. Est-ce que c'est mon cas ce matin aussi? Question que je vous pose aussi. Pour réponse à cette question, « Toi, qui es-tu? Que dis-tu de toi-même ?» Jean le Baptiste va avoir une réponse, encore une fois, qu'on pourrait considérer de bizarre, qualifiée de bizarre. « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. » Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Et dans cette réponse de Jean le Baptiste, j'aimerais m'intéresser ce matin à deux mots, surtout. Deux mots qu'on va tenter de détailler ensemble et de voir un peu ce que ça peut nous apprendre. D'abord, il y a le mot « voix ». Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. D'abord, on va s'intéresser à la voix. Selon le dictionnaire, qu'est-ce que la voix ? C'est une faculté d'émettre des sons. Un ensemble des sons qui est produit par les vibrations périodiques des cordes vocales. C'est pour le côté un petit peu technique des choses, les cordes vocales et compagnie, c'est pour côté technique. Mais nous chrétiens, par rapport à la voix, dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire de la voix? Qu'est-ce qu'une voix? Et j'ai relevé cinq choses pour la voix. Premièrement, la voix n'est pas la parole du tout, mais uniquement le porte-parole. La voix n'est pas la parole. La voix est un instrument qui doit être utilisé comme un outil. Simplement, un outil qui doit être utilisé, rien de plus. La voix n'est pas destinée à être vue, mais surtout à être entendue. La voix n'est pas destinée à être vue, mise sur le devant de la scène, mais uniquement entendue. Quatrièmement, la voix, elle n'a aucune valeur sans la parole. La voix n'a aucune valeur sans la parole. Mais qu'est-ce que la parole? Qui est la parole? Mais l'évangile de Jean nous dira que la parole, elle a été faite chair. Et la parole, c'est Jésus-Christ. La voix n'a pas de valeur sans la parole qui est Jésus-Christ. Tout doit revenir à Dieu, à Jésus. Et alors, la parole est infiniment plus grande que la voix. La parole est beaucoup plus grande que la voix. Voilà pour quelques petites explications sur la voix. Et par rapport à cette réponse de Jean le Baptiste, « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert », on peut constater que c'est un homme qui ne cherche pas, encore une fois, à se mettre en avant. Il ne dira pas « Moi, je suis Jean le Baptiste, fils de Zacharie. Ma venue a été annoncée par les prophètes. On dit de moi que je suis rempli de Saint-Esprit. On dit de moi que non. » Il ne cherchera pas à dire ça. C'est une réponse, encore une fois, remplie d'humilité, empreinte d'humilité. Alors que pourtant, encore une fois, Jean le Baptiste est quelqu'un de grand devant le Seigneur. Il est important, il a de la valeur, il est important. Il ne souhaite pas s'attirer les louanges des hommes ou l'admiration des hommes, se donnant un titre supérieur à ce qu'il est réellement, un serviteur de Dieu. Alors que Jean le Baptiste est un homme très important pour Dieu. Qu'en est-il de moi ce matin, encore une fois? Croyant qui vit actuellement, aujourd'hui. Qu'en est-il de ma relation avec Dieu? Est-ce que je cherche davantage la louange des hommes et des membres de l'Assemblée plutôt que les louanges de Dieu, ou adorer Dieu, ou de faire mon service pour louer Dieu, pour adorer Dieu? Et alors, grande question ce matin, est-ce que je suis prêt, moi, aujourd'hui, Aurélien, et vous qui êtes là, à n'être qu'une voix, qu'une simple voix, qu'un outil pour servir, eh bien, les desseins de Dieu, pour servir le plan de Dieu? On se rappelle que la voix, ce n'est pas important. Elle n'est pas appelée à être vue, elle n'est pas appelée à être mise sur le devant de la scène, elle est juste un outil, un porte-parole, un outil à utiliser, comme une griffe de jardin, comme une bêche pour un jardinier, comme un taillier, comme un simple outil que l'on range une fois qu'il n'a plus besoin d'outil, qui n'est pas appelé à être vu, tout simplement. Est-ce que c'est mon cas ce matin, ou est-ce que je recherche davantage louange et gloire des hommes dans mon service? Est-ce que je le fais pour eux, pour être adulé, pour être adoré à la place de Dieu, pour être bien vu, bien considéré? La parole a besoin d'une voix pour être entendue. Mais ce n'est pas toujours vrai dans le cas du Seigneur, parce que le Dieu 3x5 qu'on a célébré ce matin, ce Dieu trinitaire, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien, il s'autosuffit à lui-même. Il n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais il souhaite nous utiliser, hommes et femmes, petits et grands, intelligents ou moins intelligents, que notre travail soit important ou moins important. Eh bien, Dieu souhaite nous utiliser. Pourquoi ? Ben parce que c'est son souhait, c'est son désir. Il veut nous utiliser pour transmettre son message, sa parole, la repentance, l'amour de Dieu, la vie éternelle, le pardon des péchés. Mais Dieu n'a pas besoin de nous, ouvertement. Il le fait pour son bon plaisir. Encore une fois, il n'y a pas de raison de se sentir important. Je suis utilisé par Dieu, parce qu'il le souhaite, parce qu'il le souhaite. Et on est forcé de constater que dans beaucoup d'assemblées chrétiennes, peu importe l'assemblée de frères, évangéliques, pentecôtistes, peu importe, on a pu souvent constater que beaucoup d'hommes et de femmes aussi, eh bien, ont fait du mal dans les assemblées parfois. Trop d'orgueil, trop d'importance, on se sent trop beau, on parle trop bien, c'est nous les meilleurs, alors on impose ses idées et on oublie qu'il faut avant tout parler des idées de Dieu, de la parole de Dieu, et de ne pas s'en éloigner. Attention, une sonnette d'alarme est parfois tirée sur le fait d'être important dans une assemblée, de ne pas se sentir arrivé quelque part, mais de rester humble, de rester humble, de ne pas se croire arrivé à quelque part parce que l'on fait un poste dans une église, et souvent ce sont les postes où on est devant les gens, parce que l'être humain, encore une fois, ben, il est comme ça. Il se sent important, il aime bien quand les autres le regardent, il aime bien, et bien quand on dit c'est bien ce que tu fais, il se sent important. Et bien Jean le Baptiste, il nous rappelle encore ce matin que non. Il faut rester humble. Attention, ça va vite de tomber là-dedans, ça va vite. Et lorsque l'on glorifie plutôt un être humain que le Seigneur, eh bien, on prend une mauvaise direction. Et j'aimerais, pour appuyer ce que je viens de dire, eh bien, prendre une lecture dans le livre des Proverbes, si tu veux bien, Anthony. Proverbes au chapitre 22. Et nous lirons le verset 4. Proverbes, chapitre 22, le verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. La richesse, non pas d'argent, évidemment, la richesse, pas d'or, ni d'argent, ni de billets ou de pièces de monnaie, mais une richesse spirituelle, avant toute chose. La gloire, non pas notre gloire personnelle, mais la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ, parce que Jésus a accepté, comme il l'a rappelé dans sa présidence, nous avons été rendus justes grâce à Dieu, en Jésus-Christ, nous ne méritons rien. Et la vie, la vie éternelle, la vie que Dieu veut nous donner, la vie nouvelle que Dieu nous a donnée en nous rachetant du péché. Dans le cheminement de ce matin que nous faisons ensemble, Jean-Baptiste dira « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, dans le désert ». Or, toujours selon le dictionnaire, qu'est-ce que c'est un désert ? On a tous cette image du désert, le sable chaud, parfois de temps en temps un palmier, pas d'eau, des dunes, une chaleur épouvantable où on ne résiste pas très longtemps, où il fait très chaud la journée, très froid la nuit, glacial la nuit. On a tous cette idée du désert. Et le dictionnaire dira ceci, le désert c'est fait pour être un lieu désert, inhabité, un lieu vide ou peu fréquenté. Fait d'être vide, terne, morne, nu et sans activité. Ça c'est par rapport au dictionnaire. Un endroit, on n'aurait pas trop envie de s'y rendre, comme ça tout de suite c'est vide, c'est nu, il fait chaud, il fait froid. Or c'est beau le désert, il y a des très beaux déserts, mais en général il n'est pas facile de vivre dans le désert. Pour des personnes qui n'y sont pas habituées, qui n'ont pas eu cette formation, cet apprentissage à y vivre, eh bien ça n'est pas facile du tout. Mais le désert, encore une fois, pour nous chrétiens, qu'est-ce que ça peut représenter ? Bien pour Jean le Baptiste, le désert, pour lui, c'était quoi ? Ben, c'était son peuple, le peuple d'Israël. C'était le désert pour lui. Et pourquoi ? Parce que l'éloignement de son peuple par rapport aux choses spirituelles de Dieu, par rapport à ce que Dieu avait demandé, ils étaient tellement à l'opposé de ce que Dieu voulait pour eux que leur vie ressemblait à un désert. Le côté spirituel était désertique. Ils étaient assoiffés. Il n'y avait plus rien qui ressemblait à ce que Dieu avait demandé. C'était un désert. Le peuple de Dieu était devenu stérile. aride sur le plan spirituel, tel un désert. Et pour Jean le Baptiste, sa paroisse à lui, c'était le désert, c'était ce peuple-là. Ce peuple-là, le peuple dont il fait partie, qui est devenu désertique, sur le plan spirituel, sec et aussi aride. Alors pour moi, chrétien, encore une fois, en 2022, qu'est-ce que ce mot désert peut m'apporter? On ne vit plus comme au temps de Jean-Baptiste. On est maintenant, on est actuellement, on est ici à Jumet. Hein? Dans quel désert Dieu m'a-t-il placé ce matin? Dans quel désert je suis placé? Dans quel désert je suis appelé à servir l'Éternel? Alors pour chacun d'entre nous, eh bien, le désert sera personnel et sera différent pour chacun de nous. Le désert, pour moi, ça pourrait être mon pays, ma ville, peut-être mon village, mon lieu de travail, mes amis, ma famille plus éloignée, ma famille très proche. Et on a peut-être moins facile à le dire aussi, pourtant il faut en parler. Le désert, c'est peut-être aussi ce matin ma vie personnelle en ce moment. Peut-être que ma vie personnelle, aujourd'hui, matin, est un désert, est aride, stérile, comme le peuple de Dieu l'était à l'époque de Jean le Baptiste. Peut-être que ma vie est désertique ce matin. En tout cas, chacun de nous a été placé dans un lieu différent, dans son désert personnel. Et dans le désert où je suis placé ce matin, comment je vais agir? Comment est-ce que je vais agir? Est-ce que comme Jean le Baptiste, je serai fidèle dans mon service? Est-ce que je vais continuer à prêcher l'Évangile en gardant à cœur que je ne suis qu'un outil? Ou est-ce que je vais me décourager? Ou est-ce que je vais dire, ah non, le désert dans lequel je suis, ce sera pour les autres. Quelqu'un d'autre n'a qu'à venir être à ma place, ce rafraîchissement, peut-être que Dieu attend de moi. Ah, dans mon désert, je ne serai pas moi, je ne serai pas le rafraîchissement, peut-être que les autres ont besoin. Et pourtant, si je suis placé dans un désert, j'ai tout reçu de la part de Dieu en Jésus-Christ pour pouvoir être, à mon tour, un rafraîchissement. Une bouffée d'oxygène, une bouffée d'air frais, pour mes contemporains, pour mes frères, pour mes sœurs, pour ma famille, pour mes proches. C'est ce que le Seigneur attend de moi. Est-ce que je vais prêcher dans mon désert humblement, empreint d'humilité, de manière juste, comme le Seigneur me le demande, et comme Jean-Baptiste l'a pratiqué lui-même? Mais attention, toujours habiter dans un désert ne signifie pas pratiquer les choses que les autres font dans ce désert. Et par rapport au fait de faire attention lorsque l'on vit dans le monde, de ne pas devenir comme le monde, Jacques nous met en garde. J'aimerais avoir cette lecture avec vous dans la lettre de Jacques, Anthony, si tu veux bien. Jacques au chapitre 4 et au verset 4. Jacques, chapitre 4, verset 4. Très belle lettre de Jacques, très pratique. Jacques, chapitre 4 et verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Merci Anthony. Alors ici, attention, Jacques ne parle pas du fait de ne rien aimer dans le monde, dans la création. On peut aimer la nature dans laquelle nous vivons, la beauté de la création de Dieu, que ce soit les végétaux, la création animale, la beauté, la différence, la multitude de choses que Dieu a créées, parce que la nature, elle est belle, malgré que l'homme l'ait abîmée. Ce que Jacques met en garde, c'est ce système, le système dans lequel que le monde a créé pour satisfaire les convoitises de sa chair, pour convoitir, pour arriver à son orgueil, pour arriver à pouvoir réaliser et faire toutes ces choses mauvaises que le cœur humain a à l'intérieur de lui. Donc Jacques nous met en garde, attention, avec l'amour du monde, avec l'amour des choses du monde. Ne soyons pas chrétiens comme ceux qui aiment le monde, qui aiment satisfaire leur nature, la nature perverse de l'être humain, la nature orgueilleuse de l'être humain. Attention. Quel que soit le désert dans lequel Dieu m'a placé, gardons à cœur le fait de n'être qu'un serviteur, de servir Dieu en étant témoin fidèle et digne de la parole de Dieu. Et j'en ai parlé un petit peu avant, si ce matin, tu es venu dans ce lieu de culte avec l'impression que ta vie est désertique en ce moment, tu as peut-être raison et peut-être c'est parce que, comme le peuple de Dieu, tu t'es éloigné de Dieu. Dieu ne s'est pas éloigné de toi, mais Dieu, tu t'en es éloigné par rapport à peut-être un péché dans ta vie non confessé, quelque chose, ou parce que tu t'es éloigné de Dieu tout simplement. Et notre travail, notre devoir en tant que chrétien, frère et sœur, c'est pas de critiquer. Ah, t'as vu celui-là, il s'est éloigné du plan de Dieu. Il faut plus lui parler, il faut le laisser sur le côté. Il n'a qu'à revenir à Dieu, puis on lui parlera après. Hein. On a tendance à vouloir faire comme ça, être comme ça, lorsqu'on rencontre des gens que l'on trouve éloignés de la parole de Dieu. Et peut-être que si j'ai l'impression que ma vie est un désert, c'est peut-être pas non plus parce que j'ai péché contre Dieu, c'est peut-être simplement parce que je suis tellement éprouvé, là en ce moment, par différentes choses, qui ne sont peut-être même pas de mon ressort personnel, et bien que j'ai l'impression que ma vie est un désert. Peut-être parce que je suis vraiment éprouvé énormément, parce que Dieu peut-être aussi m'éprouve pour m'améliorer, me faire comprendre des choses. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu aux vignes, hein, aux vins, il faut savoir que pour qu'une vigne produise du bon raisin, du fruit, bien, il faut l'entailler. Il faut couper dedans, il faut couper dans le vif parfois. Alors on coupe dans le vif et le pied de vigne, il est difficile. Mais il se revigore et il devient plus fort qu'avant pour pouvoir porter davantage de fruits. Et bien le Seigneur, avec ses enfants, il agit parfois comme ça aussi. On est éprouvé parfois parce que Dieu veut nous amener quelque part où nous ne pensions pas aller. Et pour ça, parfois, ça fait mal, ça fait souffrir. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est responsable d'un péché dans sa vie. Peut-être que je suis tellement éprouvé, fatigué, à tel point que j'ai l'impression que Dieu s'est éloigné de moi ce matin. Et notre place n'est pas de juger, mais de témoigner de ce que le Seigneur, il est présent, même dans le désert dans lequel on vit. Dieu, il est présent, il ne s'est pas éloigné, il n'est pas parti. Il est prêt à nous accueillir, à nous pardonner si besoin, hein, pour qu'on puisse se rapprocher de lui. Soyons un rafraîchissement pour les autres. Le message de Jean dans le désert se résumait facilement ainsi. Aplanissez le chemin du Seigneur. Aplanissez. Aplanissez. En d'autres termes, eh bien, le Messie vient. Débarrassez-vous dans vos vies de ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, de ce qui vous empêche de recevoir le Christ. Repentez-vous. Abandonnez vos péchés afin que le Seigneur puisse venir habiter en vous. Qu'est-ce que ça peut signifier pour moi ? Ce sera mon dernier point. Qu'est-ce que ça peut signifier pour moi ce matin ? Préparer, aplanir le chemin du Seigneur. On sent qu'il y a un effort humain à faire. Il n'y a pas que l'effort de Dieu. Lorsqu'on se convertit à Dieu, d'un seul coup, eh bien, tout ne s'arrange pas. Notre chemin n'est pas tout plat, sans chose qui pourrait nous faire trébucher. Non, il y a l'effort humain à faire. Aplanissez, préparez votre chemin. Dieu fait sa part, mais l'être humain doit aussi faire sa part. Alors, avant d'être converti, on vient tous de lieux différents. On vient tous d'une vie différente, une éducation différente, un mode de vie différent. Et lorsqu'on s'est converti, on a fait un demi-tour complet sur le chemin sur lequel nous étions. Un changement de vie, mais c'est pas pour autant que tout est facile. Chacun a son propre chemin sur lequel il doit marcher. On doit se mettre en route, on doit marcher pour le Seigneur, on ne peut pas rester à l'arrêt. On doit avancer. Qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit jeune gens, jeune fille ou jeune garçon, on doit avancer sur le chemin de la sanctification. C'est important. Alors moi, pour vous expliquer ça plus facilement, j'ai pris un exemple pratique. Moi, je pratique la course à pied depuis maintenant de nombreuses années. Et quand je pars de la maison, j'habite à la campagne, je pars et c'est un chemin de bitume, hein, assez plat. Or, c'est facile, parce que le chemin de bitume, mais c'est plat, il n'y a pas d'obstacle sur la route. C'est plus facile de marcher ou de courir sur ce chemin-là. Et peut-être que le chemin de Ravel, pour ceux qui connaissent le Ravel, c'est facile, le chemin du Ravel, parce que c'est sécurisant, c'est balayé, c'est entretenu, la plupart du temps, c'est facile. Peut-être que c'est sur le chemin sur lequel je marche aujourd'hui, sur un chemin qui me paraît facile, parce que sur ma route, eh bien, j'ai retiré déjà beaucoup de choses. Alors, bien, je marche facilement. On va tous dans le même objectif, on va tous vers Dieu, mais sur un chemin différent. Peut-être ce matin, c'est mon cas. C'est le chemin sur lequel je suis. Attendons de ne pas se glorifier, parce qu'on peut se retrouver sur un autre chemin assez rapidement. De ne pas se glorifier. Quand je pars après ce chemin de bitume, j'arrive sur un chemin de campagne. C'est du bitume abîmé, cassé. Il y a des morceaux de la route qui sont partis. Il y a des feuilles, des gravillons. C'est déjà plus compliqué de courir sur ce chemin-là parce qu'on court moins vite. Les pas sont plus difficiles, on est plus essoufflé et on doit veiller à ce qu'il y a sur la route. On doit faire attention. Alors peut-être que ce matin aussi, je suis sur un chemin où je dois faire attention. Parce que certaines choses dans ma vie sont peut-être pas encore ôtées, sont peut-être pas encore retirées. Parce que je n'ai pas encore fait l'effort. Parce que peut-être je ne sais pas encore, je n'ai pas encore découvert que Dieu me demande de retirer certaines choses de ma vie. Peut-être on est sur ce chemin-là, qui est plus difficile. Encore une fois, attention de ne pas se moquer de ceux qui sont sur un chemin plus difficile, ou d'envier non plus ceux qui sont sur un chemin plus facile. Chacun doit se contenter du chemin sur lequel il est et travailler avec le Seigneur. Et lorsque je suis sorti de ce chemin-là, j'arrive dans les bois. C'est ce que je préfère, dans les bois. Dans les bois, c'est boueux. Il y a des racines, il y a des feuilles, il y a des pierres, il y a des morceaux de bois qui ont été tronçonnés parfois. Et certains obstacles dans les chemins de bois sont cachés sous une couche de feuilles. On ne les voit pas. On peut vite tomber, vite se tordre la cheville, vite trébucher. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, de tomber, de me blesser le pied à ce niveau-là. C'est un chemin auquel il faudra faire attention. Et peut-être que certains aussi sont sur ce chemin en ce moment. Peut-être parce qu'ils sont jeunes convertis et qu'il y a encore du travail à faire sur ce chemin. Pour tirer beaucoup de racines, pour tirer beaucoup de branches, pour tirer beaucoup de feuilles, faire attention où on met les pieds. Peut-être, c'est le chemin sur lequel je suis ce matin. En tant que chrétien, je l'ai déjà dit, je ne suis pas appelé à critiquer. Je ne suis pas appelé à émettre un jugement sur ces personnes-là. Sur le style de vie, l'état du chemin sur lequel mon frère ou ma sœur est en train de marcher, de courir. Mais je dois rester avant tout attentif à ma propre marche personnelle, à moi. Où est-ce que je marche en ce moment? Est-ce que je suis en route pour le Seigneur? Comment est mon chemin personnel à moi avant de critiquer celui des autres? Mais surtout, se confier en la personne de Dieu sur ce chemin. Confions-nous en la personne de Dieu pour qu'il nous aide à marcher sur ce chemin. Et j'aimerais faire une dernière lecture très courte dans le livre des psaumes, Anthony, si tu veux bien. Psaume chapitre 18, c'est verset 35 ou 36, ça dépend de certaines versions. Donc psaume chapitre 18, prenons le verset 36 pour commencer. Alors ce sera le prochain verset, je vais lire celui-ci quand même. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Et le suivant, si tu veux bien. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Merci Anthony. On peut demander, on doit demander au Seigneur pour qu'il nous aide à élargir notre chemin. Si le chemin est difficile, on peut lui demander au Seigneur pour qu'il nous aide à retirer sur ce chemin les choses difficiles. On peut lui demander, on doit lui demander. C'est le désir de Dieu que l'on lui prie, qu'on lui demande. Seigneur, viens à mon secours, aide-moi à marcher sur mon chemin parce que c'est difficile, parce que je suis essoufflé, parce que c'est dur, parce que c'est délicat en ce moment pour moi. Et pour conclure, ce matin, j'aimerais que l'on puisse retenir de Jean le Baptiste certaines choses importantes pour nos vies. Son humilité, ses réponses humbles, son travail fidèle pour le Seigneur Dieu. Le fait que Jean ne se soit jamais mis en avant, mais qu'il ait chaque fois laissé toute la place, la première place à Dieu, en se reculant quand c'était nécessaire, en s'effaçant aussi complètement quand ce sera nécessaire. Que ce matin, chacun puisse fidèlement continuer son travail, son œuvre, son service, dans lequel le Seigneur l'appelle, que ce soit une tâche devant les autres ou une tâche que, on voit peut-être pas, que c'est fait, comme nettoyage de l'église, comme ranger du matériel, ça se voit pas ça. Et pourtant, c'est un travail important. Sans ça, la chaîne, elle ne fonctionne pas, c'est cassé. On en s'ouvrirait tous. Humilité de Jean le Baptiste. Puissions-nous être pour nos contemporains, pour le désert dans lequel nous sommes placés, mais cette source de rafraîchissement, cette bouffée d'oxygène que certains, peut-être, ont besoin d'entendre. Seigneur, viens m'aider à justement être cette personne-là pour les autres. Alors, très important, puissions-nous retenir ce matin, et comme tout à nouveau, ou comme pour la première fois de sa vie chrétienne, accepter de n'être qu'une voix ce matin, une voix sans importance pour le Seigneur Jésus, de n'être qu'un porte-parole, d'être beaucoup moins important que la parole, mais d'accepter d'être une voix, pour que le Seigneur puisse m'utiliser dans le ministère, pour que je puisse parler de lui, témoigner de sa miséricorde, témoigner de son amour, du fait qu'il pardonne les péchés, du fait qu'il est bon pour nous. Travaillons de manière exemplaire pour le Seigneur, chacun dans le désert où on a été placé. Et pour terminer, quel que soit le chemin sur lequel nous marchons en ce moment, qu'il soit chemin de bitume, de ravel, chemin semi-forestier, ou ce chemin de bois, boueux, tortueux, avec beaucoup de racines de feuilles et de pierres, peu importe sur quel chemin nous sommes ce matin, ne soyons pas une pierre d'achoppement supplémentaire pour les autres, sur ce chemin qui est déjà difficile, par nos jugements, par nos critiques régulière, par notre manière de regarder les gens parfois, avec hautaine, manière hautaine, Mais soyons encore une fois celui qui va peut-être aider mon frère ou ma sœur à lui expliquer comment ôter certaines choses de son chemin pour qu'il puisse marcher plus facilement. Soyons une source de bénédiction pour les autres et non pas une source de jugement pour ceux qui marchent plus difficilement que moi. Amen. Moi, je voulais partager avec vous ce matin. Je vous inviterai à prier avec moi si vous le voulez bien. Seigneur, ce matin, je veux te remercier pour ce message que tu as mis sur mon cœur, Seigneur. Seigneur, je veux te remercier parce que tu m'as appris, Seigneur, beaucoup de choses à moi-même d'abord en préparant ce message. Seigneur, merci parce que tu m'as touché, Seigneur, moi le premier, par la vie de Jean le Baptiste, par ses paroles, par ses réponses, Seigneur. Et ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses nous aider, Seigneur, à faire nôtre ces paroles, Seigneur, à les pratiquer, Seigneur, dans nos vies, pour que nous puissions avancer avec toi, Seigneur, chacun sur notre chemin, que nous puissions grandir, Seigneur, avec toi. Nous puissions nous approcher de toi, Seigneur, de plus en plus près. De plus en plus près, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de ne pas critiquer, de ne pas juger, de ne pas être une pierre d'achoppement, Seigneur, pour les autres, mais une source d'encouragement, de bienfait, de bonté, de bénédiction, Seigneur, pour les autres. Peu importe le désert dans lequel tu m'as placé, Seigneur. On veut, comme tout à nouveau, Seigneur, ce matin, redevenir une voix, Seigneur, pour toi, un outil, afin que tu puisses nous utiliser, Seigneur, humblement, afin que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne s'établisse, Seigneur. Que nous puissions toucher, bénir ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, encore. Seigneur, je te rends grâce pour ce culte, Seigneur. Je te rends grâce pour toutes choses, Seigneur. Amen. Amen.